Je vais commencer par quelques objections à la vertu. Vous savez, c'est un mot peut-être pas tout à fait à la mode, ou je ne sais pas quelle est la mode pour ce mot vertu, mais bon, et quelquefois c'est un mot qui sent un peu la naphtaline. Ou... Alors je ne suis pas saint Thomas d'Aquin, je n'ai pas son envergure d'ailleurs, mais saint Thomas d'Aquin, dans les questions de la somme théologique, il prenait d'abord les objections. Après, il y a le 7 contra, et après, il fait le développement, et puis après, il répond aux objections. Voilà. Alors, je vais donner quelques objections. En fait, on oscille entre différents excès. Certains pensent que l'enfant est naturellement bon. Parle à des mères de famille, je ne suis pas tout à fait sûr. Et du coup, il faut juste l'accompagner, mais que de toute façon, la vertu, c'est peut-être pas si essentiel que ça. L'éducation, il suffit de l'accompagner. Voilà. Alors du coup, les gens qui sont dans ce profil-là, ils ne voient pas trop l'intérêt des vertus. Inversement, il y en a qui sont tellement pessimistes... De toute façon, on ne pourra rien en faire. Ils n'y arriveront pas. Donc, on baisse les bras d'entrée de jeu. D'ailleurs, ça peut être vous, d'ailleurs, quelquefois. Il y a des gens qui disent, comme je ne tiens pas mes résolutions, j'en prendrai plus. Oui, mais là, vous êtes sûr de jamais progresser. Hein, si vous ne prenez jamais de résolution... Alors, bien sûr que les résolutions, on n'arrive pas forcément à les tenir, mais au moins, pendant un certain temps, on essaie de se bouger un peu. Hein, les vertus, c'est ça, c'est essayer de se bouger un peu. C'est une traduction libre. Alors, ça, c'est une autre objection. Oh, de toute façon, les bonnes résolutions, je ne les tiens pas, donc on arrête. Autre objection, différente, deux excès qui vont l'un contre l'autre, c'est assez différent, mais on voit des gens qui sont très volontaires. Du coup, allez, on y va, et puis on va faire des progrès très volontaires, mais ils oublient un peu la grâce de Dieu. Et du coup, on a un beau passage dans l'évangile, c'est le publicain, le pharisien et le publicain. Moi, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de mes salaires, de mon salaire. Mais du coup, on se demande où est la grâce de Dieu. Il se contemple, mais il n'est pas là pour contempler Dieu. Alors, ça peut être un vrai danger, j'y reviendrai en conclusion. Les vertus, ce n'est pas pour se contempler soi-même. Se dire, mais je suis le meilleur, je suis meilleur que tous les autres, j'y arrive moi au moins. Les autres, ils n'y arrivent pas. Et à l'inverse, on en a d'autres qui veulent compter tellement sur la grâce de Dieu qu'ils restent allongés sur leur lit. C'est un père dominicain qui racontait ça. Il avait un novice assez paresseux. Et puis, il lui dit, mais bouge-toi un peu. Et il lui dit, je suis dans l'attente eschatologique. Il dit, oui, non, mais on verra ça demain, hein, mais pour l'instant, tu te bouges et tu vas faire un peu de travail. Alors, du coup, il y a aussi, et ça peut être nous, quelquefois, à certains moments, hein, on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre, ou rarement tout l'un ou tout l'autre. Quelquefois, on fait des traites de guérison intérieure, et puis on pense que tout va être réglé comme ça d'un coup de baguette magique. Mais non, je suis pour les retraites de guérison intérieure, hein, je ne suis pas du tout contre. Mais après, il faut travailler aussi. Il ne faut pas imaginer que le bon Dieu fait ça, voilà un coup de baguette magique et puis tout est résolu. Non, la vertu, c'est justement à l'inverse de ça. C'est aussi l'effort de l'homme. On est vraiment au cœur de notre foi aussi. C'est à la fois l'effort de l'homme et à la fois la grâce de Dieu. C'est d'abord la grâce de Dieu, bien sûr. Mais c'est aussi l'effort de l'homme. Si on ne veut pas faire d'effort, c'est perdu d'avance pour les vertus. Voilà. Alors... Ou certains, encore, ce serait une dernière objection, disent, moi je veux respirer à plein la liberté des enfants de Dieu, je ne veux pas me contraindre à faire des petits actes, là, c'est un peu mesquin et tout ça, donc moi je veux vivre la grande liberté des enfants de Dieu, et puis On voit quelquefois où conduit la grande liberté des enfants de Dieu, mais voilà. Et ça a quelque chose d'un peu austère, la vertu, quand même. Il faut bien reconnaître, et qu'on a l'impression, voilà, on aimerait être au-dessus de ça, mais nous ne sommes que ce que nous sommes. Voilà, vous voulez encore rester, quand même, malgré toutes ces objections, ça va ? Bon, alors, donc j'arrive au 7 contrat. Enfin, je ne suis pas saint Thomas, hein, mais c'est ce qui m'est venu. J'ai eu une distraction pendant le chapelet, donc je me suis dit, ah tiens, ça ferait savant de dire un mot, deux mots latins. Voilà. En fait, les vertus, ça remonte à loin. Déjà ce n'est pas né chez les catholiques. Il y a déjà, comment il s'appelle, Pythagore. Donc, Pythagore, c'est 580 à 495 avant Jésus. Donc, il parle déjà des vertus. Hein, et puis, on en parle dans le livre de la sagesse, dans l'Ancien Testament. Hein, donc, c'est bien sûr avant Jésus. Donc, on en parle. Chez les Grecs, la vertu, c'était quelque chose de beau. C'était la manière d'être de l'homme noble et cultivé. Donc, c'était... Voilà. Chez les Romains, c'était la fermeté dans l'état et la vie de l'homme éminent. Au Moyen-Âge, c'était l'attitude du chevalier hein, qui était vertueux. Voilà. Et puis, oui, au passage, d'ailleurs, la première étape pour déclarer, pour canoniser quelqu'un, c'est quoi ?
L'héroïcité des vertus.
L'héroïcité des vertus. Donc, si vous voulez être canonisé, il faut travailler un peu. Bah, le but, ce n'est pas la canonisation, hein, c'est de rencontrer Dieu. Mais voilà, donc, c'est... Et puis, il y a quelque chose qui est une autre motivation, c'est que en fait, il y a une vague dans les sciences humaines, dans des courants psychothérapeutiques, notamment les thérapies cognitivistes et comportementales, qui justement parle le langage des vertus. Je ne suis pas compétent dans le domaine, mais grosso modo, il y a plusieurs manières de voir. Soit on va fouiller indéfiniment dans le passé, et quelquefois, effectivement, le passé peut expliquer notre comportement d'aujourd'hui, et puis on a pu vivre, et on y pense, je crois que c'est présent à l'esprit de tout le monde en ce moment, des traumatismes qui ont brisé une vie, ou voilà. Et donc ça, c'est important aussi d'aller voir ça. Mais en même temps, il y a souvent les anglo-saxons sont un peu plus pragmatiques que nous. Ils disent, bon, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et encore une fois, quand quelqu'un était brisé, il ne s'agit pas du tout de porter un jugement, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour cette personne ? Et du coup... Vous sentez qu'ils sont beaucoup plus dans la même veine que le langage des vertus. Ils disent, cette personne, quelque part, alors selon les cas, il y a une échelle, il y en a qui sont vraiment trop cassés, mais d'autres sont moins cassés et peuvent faire un chemin. Du coup, comment on fait aujourd'hui pour faire des petits pas pour aller mieux ? Donc ça, je le traduis à ma manière à moi. Hein, mais du coup, c'est tout à fait, en tout cas, dans la veine de la... théorie des vertus, on va dire ça, ou de la doctrine des vertus, telle qu'elle est enseignée d'abord en philosophie, hein, c'est pas d'abord une exclusivité chrétienne, et puis bien sûr dans l'Église. Je trouve que ça c'est quelque chose de très intéressant de voir qui ça nous donne de voir que c'est quelque chose qui est encore actuel aussi et que vous connaissez peut-être. Stephen Covey, alors ne me demandez pas l'accent anglais, mais il a écrit un livre, Les sept habitudes, donc les vertus, de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc il a été, il a écrit ce bouquin en 91. Combien d'exemplaires sont déjà parus ? Déjà 15 millions, je crois. Enfin, 15 millions, il y a. Et puis, il a été traduit en 38 langues, déjà, son bouquin. Pour dire que, malgré tout, c'est pas quelque chose de complètement désuet, la question des vertus. C'est quelque chose qui interroge vraiment encore aujourd'hui. Covey, C-O-V-E-Y. Voilà. Oh, et puis un petit exemple avant d'aller plus loin, que je regarde maintenant. Toc, toc. Bon, il y a plein d'exemples, tous les saints, on pourrait prendre tous les saints. Mais je vais prendre avant d'entrer dans le vif du sujet, là c'est encore que l'introduction. Anne de Guigné, vous connaissez cette petite fille de Annecy. Donc son papa est mort pendant la guerre 14. Et puis elle avait 4 ans quand son papa est mort. Et alors, c'est une petite fille avec du tempérament. Alors je vous cite. Désobéissante, orgueilleuse, jalouse. Bon, elle n'a pas tous les péchés capitaux, mais déjà à 4 ans. Hein. Et alors, sa mère n'en pouvait plus. 4-5 ans, je ne sais pas exactement à quel âge. Et elle lui dit, mais Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. Et alors, ce qui est très beau, c'est de voir Anne qui va multiplier les actes pour combattre ses mauvaises habitudes, pour supporter les contrariétés. Donc, elle se crispe quand elle est en colère pour ne pas exploser. Ça fume de partout, mais... Et puis, petit à petit, justement, quelque chose, elle change. Ça s'est pas fait en un jour, hein, c'est vraiment la vertu. Petit à petit, elle s'est... Et elle est décédée un peu plus tard d'une méningite. Mais voilà, on voit d'abord, il y a l'amour pour sa maman. Et non, je ne peux pas faire ça. Et puis, ces petits actes qu'elle a répétés, et puis la grâce de Dieu, bien sûr, qui l'a aidée. Voilà, un exemple parmi bien d'autres. Je vous en citerai peut-être un tout petit peu, mais pas trop, sinon je n'aurais pas le temps de tout vous dire. Bon, alors ça, c'était une sorte... c'était les objections après le 7 contrat. Et maintenant, qu'est-ce que la vertu? Alors, vous connaissez l'étymologie de vertu. Ça vient... De virtus, de viril. Hein, c'est pas une chose de femmelette, les vertus. avec cette annotation, c'est que pour les Romains, hein, la virtus, c'est pas la virtus des... Ça s'applique pas aux barbares. Hein, c'est une force persévérante. Allez, et on y va... C'est pas le. Et dans l'ordre, avec de l'ordre, etc. C'est pas la brutalité. C'est pas la force dans le sens de brutalité ou l'impulsivité. C'est pas du tout dans ce sens-là. Hein. C'est cette force. Le courage, la discipline. Voilà. Mais voilà, du tonus pour tenir. Mais dans la durée, pas dans la brutalité et dans l'instant. Voilà. Et alors, on arrive à la définition après. Donc, vous la trouvez dans le catéchisme, vous allez vers les numéros 1803, 1804, puis tous les numéros, je vous... 1803. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. Après, je commenterai un peu plus, mais ce qui me saute aux yeux en lisant cette première citation du catéchisme, brève, c'est « Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, des actes singuliers, on pourrait dire, mais de donner le meilleur d'elle-même. » La vertu, au-delà des actes eux-mêmes, c'est de nous rendre bons. Ce n'est pas simplement les actes. Alors, par surcroît, les actes seront bons après, mais ça transforme la personne qui devient meilleure. Voilà. Deuxième Alors, ça a plus la forme d'une définition, celle-ci, au numéro suivant. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Donc ça, vous trouverez dans le catéchisme numéro 1803-1804. Donc la vertu, c'est, ça nous rend meilleurs, ça nous humanise profondément. Ça c'est le but de la vertu. Alors, si je peux vous donner une définition que je commenterai un petit peu. Une disposition stable. Allez, je dicte comme à l'école. Disposition stable, acquise par répétition, apposer des actes bons, facilement, avec maîtrise, avec joie. Facilement, avec maîtrise et avec joie. Alors, c'est d'abord une disposition stable, hein, c'est le mot de habitus. Alors, quelquefois, qu'on traduit par habitude, mais en fait, c'est pas exactement le mot d'habitude. Alors, je pense que ça vaut la peine de. Je verrai trois différences. Allez, je vais retenir trois différences entre l'habitus et l'habitude. J'espère que ça ne va pas être trop... pas que ça vous rejoindra, en tout cas. L'habitude est mue par la routine et ne fait appel ni à la conscience, ni à l'autodétermination libre. Une belle expression. L'habitude est la liberté refroidie. L'habitude, au contraire, est le fruit d'actes conscients et libres. Voilà. On en fait tous l'expérience, hein, l'habitude. On fait des tas de choses par habitude, et tant mieux. Quand vous descendez l'escalier, vous réfléchissez, ou quand vous marchez tout simplement, mais c'est encore plus périlleux quand vous descendez l'escalier, vous ne commencez pas à réfléchir comment je dois avancer mon pied et tout ça. Au moment où vous réfléchissez, ça risque de mal se passer. Quand vous conduisez aussi, c'est bien d'être présent à ce que vous faites, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément présent à chaque geste que vous faites. Je passe la vitesse, je débraye avant quand même. Voilà, non. Il y a une habitude qui joue et ça vous permet de concentrer. L'habitude est précieuse parce qu'elle nous permet une économie d'énergie quand on a des bonnes habitudes. Alors la frontière entre l'habitus et l'habitude, elle n'est pas forcément. Elle peut être fine à certains moments. Et on peut avoir l'habitus de la prière, mais à certains moments, ça peut tomber un peu dans une habitude de la prière. Il y a des habitudes pour se tourner vers Dieu, pour faire oraison, etc. Mais quelquefois, ce n'est pas les habitudes, c'est l'habitude. Et puis, voilà. L'idée, c'est l'habitude, c'est routine. L'habitus, normalement, c'est... c'est au service d'une qualité de présence, je pense à la prière, l'habitude de la prière, c'est pour que notre prière soit une prière de qualité, mais si c'est pas une prière, c'est une habitude, c'est pas un habitus. Vous demandez à un sportif, entre l'habitude de courir et l'habitus, il verra la différence, parce que l'habitus, c'est qu'il va gagner, parce qu'il est bien présent à ce qu'il est en train de faire. Même si il a eu quelques heures d'entraînement ou quelques années d'entraînement avant. Donc, il a acquis cet habitus, mais il reste très présent à ce qu'il fait. Hein, c'est la différence entre l'habitude, on oublie, puis comme ça on peut faire autre chose. Je fais la vaisselle et puis en même temps ça me permet d'écouter les enseignements de Père Éric. Non mais vous voyez, c'est il y a une qualité de présence dans l'habitude. On est bien là dans cet acte-là, tandis que dans l'habitude on n'est pas vraiment dans l'acte. On le fait, mais quelquefois on ne sait même plus si on l'a fait ou pas. À la limite, voilà. Donc première différence. Bon, ça se recoupe un peu ce que je vais dire, mais dans l'habitude, en fait, l'habitude, petit à petit, si on ne se reprend pas, ben, petit à petit, il y a une perte d'énergie, hein, petit à petit. Tandis que l'habitude, c'est plutôt ce qui nous soutient pour canaliser notre énergie pour aller plus haut. On voit vraiment une démarche différente. Ce qui me vient à l'esprit, c'est les week-ends famille. Bon, on en a fait depuis plus de 20 ans. Mais, on peut marcher sur l'habitude, mais au bout d'un moment, si ça marche uniquement sur l'habitude, ben le tonus pour les préparer, pour se renouveler, tout ça, voilà, ça tombe comme ça. À certains moments, c'est, voilà, si au contraire, ça peut être un habitus où on a capitaliser sur nos expériences et du coup pour faire mieux pour le Wigan Family suivant. Donc vous voyez la différence entre l'habitus et l'habitude. Une petite citation de psaume. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Ça, c'est l'habitus. Hein? Alors, c'était la première caractéristique dans la définition que je vous ai donnée, une disposition stable, un habitus. Deuxième caractéristique que je vais mentionner, c'est acquise par répétition. Bon, ça, on le sait aussi pour des habitudes aussi, mais aussi pour des habitudes. Quand vous apprenez une langue étrangère, on a beau vous promettre qu'en 8 jours d'assimil, vous parlerez couramment. J'ai quelques doutes, ou alors c'est parce que je suis trop nul, mais, mais bon. Il faut répéter souvent avant d'être à l'aise, etc. Celui qui joue au piano... c'est pas du jour au lendemain qu'il devient virtuose, mais pour beaucoup de choses, il faut répéter. Ben, vous le savez d'ailleurs dans la vie familiale, je pense dans l'éducation, je pense que si on n'a pas envie de répéter, il faut pas être éducateur, hein, parce que il faut répéter, puis petit à petit, voilà. On voit. Quand on a changé de traduction de Notre Père, est-ce qu'au premier Notre Père, vous y êtes arrivé? Mais nous, on a quelqu'un qui a fait mieux. C'est Dominique. Le samedi avant le dimanche, donc, on dit Notre Père. Déjà, il dit la bonne traduction. Alors, lui, je ne sais pas comment il fait, hein, mais moi, au bout de 15 jours, j'étais en train de me concentrer pour essayer de... Voilà. Mais ça, c'était... Donc, moi, il m'a fallu un certain nombre de jours avant que j'arrête de me tromper. Hein, mais bon. Pourtant, je ne suis jamais distrait dans la prière. Hein, mais... Bon, alors... Donc, première disposition stable, l'habitus, acquise par répétition, à poser des actes bons. La vertu, bien entendu, c'est pour faire du bien. Sinon, le contraire de la vertu, c'est le vice. C'est pas simplement même de faire le bien, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est même d'être bon. Mais... c'est comme si la bonté, c'est le premier acte qui nous vient spontanément, sans avoir à se forcer, etc. On parle quelquefois de l'habitus comme d'une seconde nature. Cette expression est assez belle dans le sens où Voilà, par la nature, il y a des choses qu'on fait, voilà, ça se fait automatiquement. Et l'habitude, c'est comme une seconde nature, c'est voilà, quelque chose presque spontanément, on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'y mette pas quelque chose de notre liberté, de notre volonté, notre intelligence, hein, mais voilà, c'est quand même ce qui a toute probabilité de sortir avec certaines personnes. Vous allez les voir, vous avez toutes les chances qu'elles vous accueilleront bien parce qu'elles ont la vertu de l'accueil. D'autres personnes, vous prenez un peu plus vos précautions parce que la vertu n'est pas encore complètement acquise, on va dire. Voilà, parce que c'est pas encore même si la personne qui accueille toujours bien, ce jour-là, elle a une mauvaise poil, bon, mais c'est exceptionnel. C'est un raté, mais globalement, ça ne remet pas en question là. Voilà. Donc, à poser des actes bons, ça, c'est la vertu. Et du coup, on a pris un bon pli, voilà, qui nous conditionne pas, mais qui nous aide à bien agir. Et puis, après, il y a trois qualificatifs. Nous trois, oui. Facilement, avec maîtrise et avec joie. Ça, on le voit bien avec. Je prenais l'image du piano, on pourrait prendre l'image de la sculpture, du vélo, pour des choses. Mais même pour des choses qui sont moins extérieures que de faire du vélo, par exemple. On voit quand on a. Pour enseigner, il y a des enseignantes ici où. Entre le premier jour où on enseignait et puis après en ayant un peu de métier, bon, on le fait facilement. Et il y a voilà, on a tout un métier derrière. On le fait facilement, on le fait avec maîtrise. On est beaucoup plus ajusté, on est beaucoup plus. C'est plus fiable, hein, la manière dont on le fait, c'est moins approximatif. Et puis avec joie aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler une langue étrangère, mais au début, ce n'est pas avec joie. En tout cas, moi, ça n'a jamais été avec joie. J'ai essayé de baragouiner quelque chose. Bon, mais après, on y prend plaisir, même si on ne parle pas forcément aussi bien que ça. Mais voilà, après, voilà, quand c'est installé, ça devient quelque chose Donc voilà, ces trois caractéristiques, facilement, avec maîtrise et avec joie. Je ne vous ai pas encore perdu. Ah, j'ai failli vous réveiller là. Alors, nous n'en sommes encore que à la définition de la vertu et aux quelques ingrédients qui la composent. Alors, combien il y a de vertus? Alors, elles sont innombrables. Mais je vais vous donner trois sortes, on va dire, trois sortes de vertus. Il y a ce qu'on appelle les vertus intellectuelles. C'est la sagesse, la science, l'intelligence. À ce sujet-là, j'ai un bon souvenir d'un prof que nous avions à Rome. Il était très distrait, mais très bon. Non, je ne raconte pas tout, sinon j'en sors pas. Mais en tout cas, dans son cours, le contenu lui-même du cours, nous on était ravis, on avait 5 pages au bout d'un semestre de cours, hein. Il n'y avait pas grand-chose à noter. Mais en revanche, il était excellent parce qu'il nous apprenait à réfléchir. Ça ne l'intéressait pas de nous apprendre des tas de choses. Mais il nous posait des questions et nous laissait nous dépatouiller pour essayer de répondre à ces questions. Et régulièrement, il disait distinguiamo, hein, distinguons. Oui, c'est vrai dans un sens, mais dans un autre sens. Et il nous aidait à formuler les choses de manière plus nuancée, plus juste, plus. Du coup, j'ai toujours aimé ce prof dans le sens où je pense que c'était un maître Il nous apprenait à penser. Il ne nous apprenait pas des choses, mais il nous apprenait à penser. Et il nous apprenait justement les vertus intellectuelles, je pense. Il nous apprenait à travailler, là, pas accueillir bouche bée tout ce qu'il nous dirait, mais plutôt à réfléchir activement à ce qu'il... Et je trouvais que c'était très intéressant. Il ne fallait pas que tous les profs soient comme lui, hein, sinon... Mais en même temps, d'en avoir un, c'était excellent. Je pense que c'était excellent parce que vraiment, c'était stimulant aussi. Et c'est, voilà. Donc ça, c'est tout le domaine des vertus intellectuelles. Après, il y a un deuxième domaine, c'est le domaine des vertus morales. Hein? L'intelligence, les vertus intellectuelles, c'est pour bien faire fonctionner notre intelligence. Donc c'est très bien. Les vertus morales, c'est beaucoup plus large. C'est bien se conduire dans la vie. Donc c'est beaucoup plus large que les vertus intellectuelles. C'est Aristote qui remarquait que la vertu morale rend l'homme bon, alors que la vertu intellectuelle rend seulement l'intelligence bonne. Et on voit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelquefois, on survalorise un peu l'intelligence. Il y a des gens qui sont hyper doués au niveau intellectuel, des hommes politiques, universitaires, vraiment des têtes, comme on dit, mais il en manque un corps, une sensibilité, un cœur. Et du coup, voilà qui ont des capacités relationnelles un peu atrophiées. Donc, les vertus intellectuelles, c'est bien, mais ce n'est pas celles sur lesquelles on va réfléchir, c'est plutôt les vertus morales. Les vertus morales, c'est beaucoup plus englobant, c'est toute notre personne se conduire soi-même et dans nos relations avec les autres. Et donc, c'est dans ces fameuses vertus morales qu'on trouve notamment les vertus cardinales. Donc, elles sont dans le cadre des vertus morales. D'ailleurs, au niveau des vertus intellectuelles, c'est des vertus intellectuelles, mais il n'y a pas de péché en face des vertus intellectuelles. Vous n'êtes pas doué en maths, ben c'est dommage pour vous, mais, mais ça ne vous empêchera pas d'entrer au ciel. En revanche, les vertus morales, oui, ça nous engage beaucoup plus profondément. Ah tiens, pour éviter que vous vous endormiez... Il y a combien de parties dans le catéchisme? J'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais non, peut-être pas avec vous. Vous n'avez pas fait le coup. Mais vous le regardez tous les jours, j'espère. Non? Donc il y a 4 parties, si mes souvenirs sont bons, je me trompe pas. J'improvise. Hein, mais enfin, peu importe. Normalement, il y a 4 parties. La première, c'est parce qu'on pourrait croire, c'est le catéchisme. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le catéchisme? Vous avez une petite idée? C'est intéressant quand même. Mais d'abord, un commentaire du credo. Et du coup, là, c'est une partie plus spéculative. C'est plutôt comprendre notre foi. Et c'est important de comprendre notre foi. Donc... Ça, c'est une partie. Mais il y en a encore 3 aussi. Ça ne se limite pas là, le catéchisme. C'est très, pour moi, au moins, c'est très parlant. C'est la deuxième partie, c'est la célébration du mystère chrétien. Alors, c'est notamment tout ce qui concerne les sacrements, pour faire simple. C'est, je ne contemple pas simplement le bon Dieu de l'extérieur, mais par le sacrement, il me fait partager sa vie. Donc, c'est pas uniquement, ça reste pas extérieur à moi le mystère de Dieu. C'est pas juste quelque chose que je contemple avec la pointe de mon intelligence. C'est quelque chose dans lequel j'entre. C'est bien de savoir des tas de choses sur Dieu et tout ça, c'est bien. Mais mieux, c'est de vivre avec lui quand même. Alors, vivre avec lui, même, c'est plus la troisième partie. Alors, c'est déjà la deuxième partie par les sacrements, mais la troisième partie, c'est la partie morale, justement. Donc, c'est pour ça que je vous évoque ça maintenant. c'est la partie morale. On ne rentre pas dans la foi, c'est pas simplement savoir des choses sur Dieu, c'est aussi l'écouter et correspondre à ce qu'il nous demande. Quelquefois, il y a des personnes, et tous plus ou moins, entre ce qu'on sait de lui et puis après notre comportement, il y a un petit hiatus. Comme on est tous pécheurs, il y a toujours un hiatus, mais bon, on essaie de le réduire quand même, normalement. Donc c'est cette partie qui est où on parle plus des commandements et des vertus. Et puis après, la quatrième partie, c'est la prière chrétienne. C'est le fait de s'adresser à Dieu, de prier, de le prier, tout ça. Donc, ces quatre parties du catéchisme, vous pouvez y repenser un petit peu, mais voilà, là, on était dans les vertus intellectuelles et là, on est dans les vertus morales. Et ça, c'est un caractère beaucoup plus englobant. Et donc, j'arrive aux vertus cardinales. Est-ce que ce sont les plus grandes vertus, les vertus cardinales? Pas forcément. De toute façon, Saint Paul a dû dire quelque chose quelque part. Alors, il parlait des trois, de l'espérance, la foi, l'espérance, et la troisième, je sais très bien, la charité. Donc, ce n'est pas forcément les plus importantes, mais cardinales. Il y a un enfant qui disait, c'est la vertu des cardinaux. Non, on peut espérer qu'ils soient tout plein de vertus, mais en même temps, non. C'est cardinal dans le sens de cardo, c'est le gond. Hein, c'est autour de ces vertus qu'on peut articuler les autres. C'est dans le désir aussi de classifier un peu les choses, ou de comprendre, ou d'avoir une structure. Donc c'est les prochaines halles spirituelles, on verra les quatre vertus cardinales, comme c'est bien mis. Mais comme je change toujours un petit peu... Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, non. Alors là, il y a une petite erreur. Le 16 décembre, ça sera plutôt la justice. Voilà. Mais voilà, on parlera des vertus théologales le 10 mars. Et après, peut-être, je ne sais pas... on verra un peu après. J'ai eu d'autres idées entre-temps, mais voilà. Vous ne serez pas surpris s'il y a quelques changements, vous ne serez pas dérouté. Voilà. En tout cas, les vertus cardinales. Donc, il y en a quatre qu'on va voir les quatre prochaines haltes, ça c'est sûr. Alors, on les étudie quelquefois de manière variée. Je vais prendre un ordre assez classique. Prudence, justice, force, tempérance. Sachant que la prudence, s'il y avait encore une vertu qui fait vraiment le lien entre toutes les vertus, c'est quand même la prudence. Parce que la prudence, c'est ce qui adapte ce que je comprends de ce que Dieu veut de moi avec les situations concrètes, etc. Donc ça, c'est vraiment la vertu et qui concerne l'intelligence pratique. Hein. Ce n'est pas une vertu intellectuelle dans le sens où déconnectée. C'est ce qui met en relation mon intelligence et ma volonté. Voilà, quelque part, on va dire ça un peu voilà. Et puis après, la justice, c'est le rapport aux autres, à Dieu et aux autres. Je n'entre pas dans les détails cette fois-ci. La force, c'est justement c'est pour affronter les difficultés, voilà. Et puis la tempérance, c'est plutôt par rapport au plaisir, ce qui m'attire, etc., de me retenir un petit peu, ou en tout cas de l'intégrer, le plaisir, et de ne pas me laisser emmener par le plaisir en faisant des choses qui ne conviennent pas. Voilà. Mais c'est donc ces quatre vertus cardinales dans les vertus morales, mais il y a bien d'autres vertus morales. Alors peut-être que je parle. Alors là, on en a. C'était noté, l'humilité. C'est moi qui avais donné ça, hein, donc c'est moi le fautif. Hein. L'humilité, parce que Jésus nous parle de doux et humble de cœur. Et je m'étais dit, et je pense qu'on en parlera d'une manière ou d'une autre de l'humilité. Parce que, à côté des vertus où on est quand même assez volontaire, Je pense que c'est bien de voir aussi cette vertu de l'humilité qui est importante pour nous tous à travailler. Voilà, ça fait un contrepoint un peu. Je pense que c'est une bonne chose. Et voilà. Mais je vous passe les détails. Oui. Il y a beaucoup d'autres vertus morales. Elles ont été étudiées aussi récemment d'une manière purement laïque. Hein, des Américains qui ont fait des études et ils ont essayé de voir un petit peu toutes les qualités qui étaient promises dans les différentes cultures. Alors, ils ont relevé 24 qualités. Je vous en cite quelques-unes. Créativité, curiosité, qualité, vertu, voilà. Curiosité, ouverture d'esprit, désir d'apprendre, discernement, bravoure, persévérance, intégrité, vitalité, enthousiasme, voilà. Intelligence sociale, bonté, amour, équité, voilà. Enfin, plein d'autres. Mais on peut les regrouper, finalement, on pourrait les regrouper autour des quatre vertus que. D'une manière ou d'une autre, qui sont proposées par la théologie chrétienne. Donc, vertu intellectuelle, vertu cardinale, et vertu morale, et notamment les vertus cardinales, et puis les vertus théologales. Donc, ces vertus sont différentes des autres parce qu'elles nous sont données par Dieu, même s'il faut aussi travailler derrière. La foi, c'est d'avoir un don de Dieu, l'espérance, la charité, mais après, il faut aussi correspondre au don de Dieu. Et c'est un don de Dieu parce que pour nous permettre d'entrer en relation avec lui, il y a un abîme entre Dieu et nous, d'une certaine manière. Lui, c'est le Créateur, nous, on est une pauvre petite créature, mais justement, il nous donne cette possibilité de lui être unis. Donc, c'est les vertus théologales, c'est les vertus par lesquelles nous sommes unis à Dieu, sous un biais différent, que ce soit la foi, l'espérance ou la charité. Voilà, donc les trois grandes familles de vertus, on va dire. Alors, pourquoi cultiver les vertus ? Alors, je vais donner trois raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais une première raison, c'est simplement que, à la différence de l'animal, l'homme, quand il apparaît sur Terre, a beaucoup à apprendre. L'animal, il y a plein de choses qu'il sait faire assez vite. L'homme, il a besoin d'une phase d'apprentissage beaucoup plus longue. Et d'ailleurs, c'est. Même au niveau neuronal, ils ont fait des études, etc., pour voir justement que le cerveau humain, voilà, il avait une capacité d'adaptation aussi, qu'on ne trouvait pas forcément chez les autres. Et du coup, la place de l'apprentissage pour l'homme est très importante. Et c'est très beau de voir que Jésus, le Verbe de Dieu, s'est fait chair. Lui qui est Dieu quand même, mais il a voulu apprendre à parler, il a voulu, et ça fait partie de notre humanité d'apprendre les choses les plus simples de la vie. Voilà. Deuxième raison, donc, d'une part l'homme est très démuni à sa naissance, il a besoin d'apprendre beaucoup de choses, heureusement qu'il a des parents pour ça, pour l'aider, voilà. Puis qu'il y a l'école aussi, je pense que c'est vraiment des lieux importants. Et puis, deuxième raison de l'importance de travailler les vertus, c'est qu'on n'est pas, l'Immaculée Conception. Et que, voilà, il y a quand même des blessures qui sont en nous, qu'on le veuille ou non, du fait du péché originel, qui fait que, voilà, on ne s'oriente pas forcément spontanément vers le bien. Pas toujours. Ça arrive, hein, mais pas toujours. Et du coup, c'est important de mettre en place des bonnes dispositions habituelles, Sinon, la nature aura horreur du vide et ça sera des mauvaises à la place. Donc, voilà. Et troisième raison, c'est parce que, ultimement, déjà d'un point de vue naturel et a fortiori d'un point de vue chrétien, voilà, on est appelé justement à se construire soi-même d'une certaine manière, même si c'est avec la grâce de Dieu, etc. On est appelé à atteindre une certaine perfection. Mais c'est intéressant de voir que même dans les... Alors déjà pour Aristote, hein, lui, il voyait que toute sa morale est finalisée par le bonheur. Parce que finalement, on cherche à être heureux, mais quelquefois, justement, sa réflexion sur les vertus d'Aristote, c'est de dire, mais quelquefois, on pense être heureux et il dit, mais il y a trois grandes impasses dans lesquelles on se met, soit dans l'argent, soit dans le sexe, soit dans le pouvoir. Et du coup, on va là-dedans, et puis au bout du compte, on voit que c'est... on met notre absolu là-dedans, et puis on voit que finalement, voilà, ça ne mène pas forcément très loin. Et du coup, lui, c'est justement comme ça qu'il a enseigné la vertu pour atteindre le bonheur. Et que c'est ça qui rend vraiment l'homme heureux. Et c'est confirmé, alors c'est assez beau aussi, par la psychologie expérimentale actuelle, qui, alors c'est beaucoup les Américains, hein, mais qui font des études, ils prennent des échantillons de personnes et les mettent dans telle situation. Et ils ont remarqué que le fait d'avoir des activités intentionnelles vertueuses rendait les gens plus heureux. Alors, après, je ne rentre pas... Si vous voulez aller voir sur Pascal Lide, sur son site, a plein de choses là-dessus. Bon, mais je ne vais pas me perdre dans tout ça. Mais c'est très intéressant de voir que c'est confirmé aussi par des données expérimentales. Tandis que les gens qui n'ont aucun projet, tout ça, voilà, c'est... Voilà, d'être tendu vers quelque chose de beau et de bon. Voilà. Et puis nous sommes appelés à être des saints, donc voilà. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Voilà, alors du coup, c'est pourquoi travailler sur les vertus, ben, parce que déjà, on est tout démunis quand on arrive à la naissance, parce qu'on a des travers, et puis pour atteindre cette communion et cette perfection, on va dire. Alors, dernière question, je crois que je m'arrêterai sur cette question-là, mais que vous attendez certainement avec impatience. Cette dernière question, c'est comment acquérir les vertus ? Parce que le but, c'est pas de vous donner une belle théorie, puis après, vous savez des tas de choses pour les vertus et vous n'avancez pas d'un pouce. Alors là, ça serait mon désespoir à la fin de l'année. Si je ne voyais pas votre auréole augmenter. Mais parce que c'est pas... L'idée, c'est de... Dans ce domaine-là, en tout cas, c'est pas tant de savoir des tas de choses très belles ou... Je ne sais pas. C'est justement que de pouvoir en profiter et puis pouvoir grandir. Alors, j'ai essayé de mettre... Combien j'en ai trouvé ? Là, je vais prendre d'abord une image qu'il emploie. Oui, je vais employer d'abord une image. Est-ce que... Je vais raccourcir un petit peu quand même. C'est l'image du bon pianiste. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent... qui sont importants. Il faut d'abord que la personne soit capable, a priori, de jouer du piano. S'il n'a pas de bras, ça sera un peu plus compliqué. Quoique peut-être avec les doigts de pied, on peut peut-être y arriver. Mais bon, a priori, il faut quand même un minimum. Voilà. Après, c'est clair que les actes par répétition, au début... Je ne sais pas si vous avez des enfants qui font de la musique, il faudra peut-être que vous répétiez « N'oublie pas, travaille un peu !» parce que facile, avec joie, je ne suis pas sûr qu'au point de départ, ce soit beaucoup avec joie, hein, parce que, voilà. Et puis, il y a besoin d'un maître aussi, il y a besoin de quelqu'un pour aider à apprendre. On a besoin de... voilà, il faut du temps. On ne devient pas un virtuose en 8 jours, il faut du temps. Mais après, justement, ce qui est beau, c'est que... on voit, par rapport à la liberté, il parle pas mal de la liberté, justement. Voilà. Pour voir comment évolue la liberté entre le début, il sait rien, et puis la fin. Dans cet exemple très simple, nous voyons clairement apparaître une nouvelle forme de liberté. Chacun de nous est certes libre de frapper à sa guise sur chaque note du piano indifféremment. Mais cette liberté est rudimentaire, sauvage en quelque sorte. Elle cache l'incapacité de jouer convenablement des morceaux, même faciles, et d'éviter les fautes. En revanche, celui qui possède l'art du piano a réellement acquis une liberté neuve, la capacité de jouer convenablement toutes les pièces qu'il veut et d'en composer de nouvelles. Sa liberté au plan musical peut se définir comme un pouvoir lentement acquis d'exécuter avec perfection les œuvres qu'il veut. Elle repose sur des dispositions naturelles, sur un talent devenu ferme et stable, par l'exercice régulier et progressif, soit proprement un habitus. Voilà. Donc voilà, avec cette image de l'apprentissage du piano. Alors, je retiens, pour les virtuos, il doit y en avoir 7, et 6. On va dire 6. Un premier point, c'est la volonté. Si on veut grandir dans la vertu, il faut le vouloir. Ça paraît élémentaire, mais ça... personne ne peut le vouloir à notre place. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Hein, la vertu, c'est très personnel. Et la volonté, ça veut dire en même temps de prendre les moyens après. La volonté, avant même de prendre les moyens, c'est de vouloir le bien. C'est de le désirer. Je pense que pour apprendre le piano, peut-être quand on va écouter un virtuose, on dit « Ah oui, j'aimerais jouer comme lui ». Bon, après, on déchante un peu parce qu'on voit que... On ne se rend pas compte quand il joue, ça a l'air d'être facile, là. Et puis bon, moi, je ne suis pas si facile que ça. Mais ça me fait penser un petit peu aux résolutions de carême. Vous en prenez, hein, les résolutions. Et les résolutions, ben, la première chose, c'est de vouloir la prendre. Si c'est votre mari qui vous la donne, je ne sais pas si... ça sera très efficace. Il peut vous suggérer, bien sûr. Et c'est pas d'abord de combattre un défaut. C'est d'abord de vouloir positivement quelque chose de bien. On avance plus avec de l'enthousiasme et avec en voulant faire quelque chose de beau qu'en simplement en fuyant le mal et en essayant d'éviter les erreurs. Donc voilà, la première chose, je pense, pour les vertus, c'est de voir ce qu'il y a de beau, c'est déjà de nourrir votre intelligence et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment travailler. Je pense que ça vaut la peine d'y consacrer un petit peu de temps pour voir de temps en temps, tiens, qu'est-ce que je veux travailler. Alors dans les équipes Notre-Dame, c'est la règle de vie, ça correspond à ça, grosso modo. Bon, là, on est au niveau de la volonté. Voilà, j'ai envie de faire ça. Après, deuxième chose, c'est d'avoir des actions concrètes et réalistes. Tant que ça reste dans votre tête, ça reste au niveau de la velléité, mais ça n'avance pas beaucoup. Vous pouvez lire des tas de livres sur comment skier parfaitement. pour skier, un jour, il faudra monter sur les skis. Ça paraît idiot, mais... Et pour les vertus, ben, il faut commencer à les exercer. On demandait à Saint Benoît-Joseph Lame comment discerner la volonté de Dieu. Et lui, de manière un peu déroutante, disait « La meilleure façon de connaître la volonté de Dieu, c'est de la faire. » Et alors, mais ce n'était pas une boutade pour envoyer son interlocuteur dans les buts, c'était pour dire, mais voilà, commence déjà à faire ce que tu as discerné de la volonté de Dieu, et au fur et à mesure, ça s'éclairera. Mais n'attends pas que tout soit révélé du jour au lendemain, voilà. Donc, autrement dit, le deuxième élément, c'est faire. C'est des actions concrètes, réalistes aussi, hein, parce que si vous pensez gravir le Mont Blanc d'ici demain matin... voilà. Donc, troisième chose qui rejoint un petit peu, mais ça rejoint notamment le réalisme, c'est les petits pas. Il faut accepter de faire des petits pas. Et quelquefois, il faut savoir aussi fractionner. Parce que si on veut... Si on est trop exigeant, on va se décourager assez vite. Donc, peut-être voir des étapes, de repérer des points d'étape pour faire le point, etc. Pas juste le premier jour de carême, aller une résolution. Et puis, au rameau, au fait, qu'est-ce que j'avais pris comme, comme résolution ? Ça vous est jamais arrivé, ça, hein ? Voilà, mais du coup, ça suppose de mettre des étapes pour voir où on en est, où on est, de faire des petits pas. Quatrième chose, c'est de substituer des bonnes habitudes aux mauvaises. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais lutter directement comme une mauvaise habitude, ça ne sera pas forcément très, très efficace. Quelquefois, c'est plus intelligent d'essayer de trouver une autre habitude qui soit bonne pour remplacer la mauvaise. Cinquième chose, c'est prendre en compte le facteur temps et la patience. Alors, à l'heure actuelle, on aime tout de suite, hein, et du coup, le temps est difficile. Et c'est c'était une Française qui était aux États-Unis, je crois, qui avait fait un. C'est un livre, Arrêtez de râler, non ? Il n'y a pas quelque chose comme ça où... Alors, comment je vais arrêter de râler ? Alors, du coup, elle a remarqué que, je ne sais pas, après, il y a des études, ça dépend un peu du genre d'effort. Mais pour que ça se grave vraiment en nous, il faut 66 jours, ou je ne sais pas combien. Mais du coup, c'est même plus qu'un carême. Hein. Il faut du temps. Si juste une des, sauf pour Dominique qui est le jour même, mais moi il m'a fallu du temps, du temps pour, et ça on ne peut pas en faire l'économie, ça, voilà, pour que ça se grave en nous, que ça devienne comme une deuxième nature, ça ne se fait pas en un jour, et ça dépend des sujets, je pense qu'il y a des temps variables selon les personnes peut-être, mais beaucoup selon les choses à travailler. Et puis, un cinquième élément, je trouve qui est important aussi, c'est le soutien fraternel. Alors, soutien fraternel, ça veut dire peut-être des gens qui nous... Ça peut se présenter sous diverses formes. Ça peut être se faire coacher par quelqu'un, un ami, une amie, ou un père spirituel, ou un coach, ou je ne sais pas. Mais ça peut être aussi simplement un soutien amical, fraternel. Voilà, et on lui a partagé notre chose, alors il ne nous donne pas de conseils, mais simplement il nous encourage. Si, regarde, là, j'ai vu que tu as fait un effort, aujourd'hui tu n'as pas oublié. je ne sais pas, mais. Et c'est très important ce soutien fraternel, ou les personnes qui sont plutôt motivantes autour de nous. Il y a des gens. Quand on les voit, ils nous feraient déprimer d'avance. Alors, c'est peut-être pas auprès d'eux qu'il faut aller si le jour où vous voulez vous engager dans un chemin de vertu, parce que voilà, ils vous plomberont le moral avant de démarrer. Donc, il faut savoir un peu s'entourer si on veut avancer. En fait, nous, on vit en communauté pour se stimuler mutuellement aussi. Voilà. Et puis, voilà, bon, je crois que je vais conclure. Donc, l'intérêt des vertus, c'est pas de les connaître, c'est de les vivre. L'intérêt, c'est pas d'avoir une apparence de vertu. Il y a des vertus sociales, voilà, comme ça, voilà, on apparaît comme quelqu'un de bien, mais c'est pas le but de la vertu, c'est pas d'apparaître, c'est d'être bon, c'est ça. Et puis, ne pas oublier que c'est pas les vertus en tant que telles qui nous font rentrer au ciel, c'est la grâce de Dieu qui nous fait rentrer au ciel. Je vous ai cité le pharisien et le publicain. Donc, de jamais perdre de vue que finalement, c'est pas nos efforts qui... Le ciel dépassera toujours nos efforts. Donc, mais le bon Dieu voit plutôt nos efforts comme un signe de bonne volonté. Voilà, on a envie vraiment de s'engager. On n'est pas... Dieu n'aime pas faire de la citadin. Il nous veut partie prenante aussi de notre salut. Voilà, même si c'est lui qui nous sauve. Amen.